prochain. Nous serons le 30 janvier 2021. Déjà le mois de janvier 2021 devait passer. Et n'oubliez pas, on se retrouve demain matin dès 9h avec la Miss Chantal pour Dimanche Bonheur. Donc, 1 heure d'accordéon, 2 heures de chansons françaises. Et n'oubliez pas, ce soir, Jean-Louis de 16h à 18h, exceptionnellement, pour Balade Intertropicale. Et nous, on se quitte sur ce morceau, donc Coteau Visitors. Et d'ici quelques instants, vous retrouverez Polymix et la voix off. Salut, à demain matin 9h. Bye bye.
La voix off.
Il faut profiter du pré-confinement ou du confinement. Il faut lire. En ce moment, il faut lire. Il ne faut pas regarder la télé, des séries et jouer à je ne sais quel jeu collé sur son téléphone toute la journée. Il faut profiter de cette période terrible pour s'informer sur des choses qu'on ne connaît pas du tout. L'idée qu'on va avoir du congrès de Tours, c'est que ce mouvement communiste qui finalement s'est simplement aligné sur ces dictateurs soviétiques, ils l'ont remporté à Tours et puis après ils ont pourri le mouvement. On lit les 21 conditions, on se dit « Oh mon Dieu, mais quelle dictature affreuse !» C'est grand thème d'ailleurs de Blum au congrès de Tours. Hein. Mais oui, nous aussi on veut la révolution, mais on ne veut pas cette militarisation du mouvement, cette dictature. La grande vertu d'histoire, c'est de montrer quel est le cheminement entre le vieux et le présent.
C'est sûr, mieux vaut lire de vrais bouquins d'histoire plutôt que de se contenter des propagandes médiatiques, y compris d'Arte et de France Culture, qui ne disent pas toujours toute la vérité historique sur ces 6 gentils patrons et 6 gentils banquiers de la haute bourgeoisie qui nous gouvernent depuis plus de 2 siècles. Le problème, c'est que les vrais livres d'histoire sont parfois difficiles à lire quand on n'a pas l'habitude, comme c'est parfois le cas avec l'historienne Annie Lacroix-Risse, professeure émérite à l'université Paris 7, qui prouve les choses désagréables et très compliquées qu'elle avance en noyant parfois le lecteur sous des centaines de ses références d'archives impitoyables, des archives qui attestent des méfaits de la haute bourgeoisie industrielle et bancaire. Quand on accuse, on prouve, et ça peut occuper beaucoup de papier dans un bouquin. Sans compter que ce que démontre Annie Lacroix-Risse est tout simplement ahurissant, tant ce qu'elle expose ne colle pas à ce qu'on nous raconte d'habitude au sujet de notre gentil patronat et de ses larbins politiques et syndicaux. Car après les collabos de la SFIO, on va aujourd'hui parler des collabos syndicaux, et notamment de Léon Jouot, anticommuniste notoire qui dirigea longtemps la CGT. Salut, c'est JBD, c'est la voix off. Bienvenue à toi pour ce 5e volet de cette série sur le congrès de Tours de 1920, congrès qui voit la scission de la SFIO, le parti socialiste de l'époque, dont une majorité de délégués décide de suivre la 3e internationale des bolcheviks. Le congrès de Tours, c'est l'acte de naissance de ce qui deviendra le Parti communiste français. Les raisons de la division entre socialistes existent dès le 19e siècle, hein, entre les socialistes révolutionnaires et les socialistes de droite, les réformistes qui ne prônent pas la révolution, mais pratiquent la collaboration de classe avec les capitalistes et leur gouvernement. Climax de cette collaboration, la soi-disant « Union sacrée » de 14-18, au cours de laquelle des leaders socialistes politiques et syndicalistes co-organisent la grande boucherie aux côtés du patronat. Pour les authentiques socialistes, cette collaboration de plus est une trahison de trop et qui ne passe pas. C'est ce qui fera éclater la SFIO et aussi plus tard la CGT. Car comme à la SFIO, la CGT compte elle aussi des leaders corrompus qui roulent pour les capitalistes, par exemple en assurant l'ordre dans les usines en 14-18. Guerre où les travailleurs ont été réduits en esclavage ou en chair à canon, et pendant laquelle les industriels se sont beaucoup enrichis. Cette collaboration de certaines élites syndicales et politiques avec le patronat s'explique très simplement par la corruption, dont nombre de socialistes politiques et syndicalistes sont l'objet. L'oligarchie financière a les moyens d'acheter bien des consciences. Annie Lacroix-Riss, bonjour.
Bonjour.
On l'a vu aux précédents épisodes, au congrès de Tours de 1920, une majorité de délégués socialistes de la SFIO décide donc de suivre les 21 conditions de la troisième internationale des communistes de ce qui deviendra bientôt l'URSS. Cette majorité créera le Parti communiste français et conservera l'Humanité, le journal de Jaurès. La minorité de socialistes réformistes conserve la SFIO, l'ancêtre du PS, hein, qui jusqu'à sa fin collaborera aussi servilement que possible avec le patronat et ses gouvernements. Le plus emblématique de ses collaborateurs est le grand bourgeois Léon Blum, au sujet duquel on nous fait croire que c'est à lui qu'on doit les congés payés et autres conquêtes de 36, ce qui est faux. Le programme du Front Populaire était quasiment vide. C'est la base des travailleurs en grève qui a conquis ses nouveaux droits en 36. En 36, SFIO et CGT ont été complètement dépassés par la mobilisation populaire et n'ont fait que suivre le mouvement des travailleurs de base. En 36, Blum ne sera qu'un intermédiaire entre grévistes et patronat dont il sera un serviteur pendant toute sa vie. Cette division de 1920 entre socialistes, collabos et authentiques révolutionnaires, on l'observe aussi dans la CGT. Et pour cause, de nombreux délégués de la SFIO étaient aussi ouvriers et paysans syndicalistes à la CGT. Or, ça nous semble aujourd'hui extraordinaire parce que pendant des décennies, on s'est habitué à l'idée que la CGT était le bras syndical du PC. Mais des leaders de la CGT des années 20 et 30 étaient farouchement anticommunistes et franchement collaborateurs, car franchement corrompus. À la tête de ces syndicalistes collaborateurs, Léon Jouot, qui dirigera longtemps une CGT au service du patronat, avant, en 1947, de fonder la CGT Force Ouvrière, FO, qui sera donc financée par l'argent des patrons, et de la CIA, pour contrer une CGT devenue vraiment rouge et très forte après la Seconde Guerre mondiale, prestige de la résistance oblige. Mais revenons-en à la première grande boucherie mondiale. Dès 1917, 1918, 1919, 1920, les gens et les travailleurs en ont marre de la guerre et de l'exploitation et le manifestent. 1920 voit de très puissantes grèves cassées par Léon Jouot et son équipe. En 1921, la coupe de la collaboration est pleine et provoque la scission de la CGT. Enfin, qu'on ne sera pas vraiment une, on verra ça tout à l'heure. Les collaborateurs des patrons restent à la CGT, avec Jouot, on les appellera les confédérés. Et les militants révolutionnaires créent la CGT-U, U comme unifié, comme quoi ils avaient le sens de l'humour, on les appellera les unitaires. Une histoire stupéfiante, désolante et complètement oubliée parce que surtout pas racontée, Annie Lacroix-Riss.
Il faut bien comprendre comment cette première fausse scission de la CGT a été organisée en 1921 et à la suite d'énormément d'événements qui conduisaient à la scission, on est là dans un domaine qui n'apparaît pas d'ailleurs au congrès de Tours. On est entre le 25 et le 30 décembre 1920 et à ce moment-là, bien que la question syndicale ait été posée au congrès de Tours, je dirais que Jouot et les siens ont emporté la partie. Ils ont porté aux luttes syndicales qui n'ont cessé de se développer depuis en fait 1916, plus encore en 1917, plus encore en 1918, encore plus en 1919, encore plus en 1920, mais avec le chant du cygne, puisque Jouhaud réussit à casser de main de maître, et avec aide extérieure, mais de main de maître, la grève générale du 1er mai 1920, qui passe notamment par une reprise de la grève des cheminots, à la défaite écrasante de laquelle il a apporté une contribution considérable, on est donc avec ce syndicalisme dans une dimension qui est absolument essentielle dans le maintien du réformisme en France, dans le succès du réformisme, dans la consolidation du succès du réformisme, enfin de tout ce qui vient du proudhonisme et de ce qui l'a suivi. C'est une dimension énorme et c'est une dimension qui est absolument mal connue. Parce que, d'une part, depuis une bonne trentaine d'années, sinon davantage, ce que j'appellerais l'étude proprement historique du syndicalisme a soit disparu, soit purement et simplement, parce qu'on n'a plus du tout intérêt de nos jours, ça fait 30 ans que ça dure, et même plus 30 ans, évidemment, à faire une thèse d'histoire sociale, une thèse d'histoire syndicale. Qui est-ce qui va s'occuper des prolétaires? Alors, il faut apporter des nuances parce qu'il y a, ces temps-ci, un certain nombre de jeunes chercheurs qui recommencent à analyser le mouvement social. Mais, sauf exception, c'est quand même une histoire qui est beaucoup plus proche d'une histoire passée par Sciences Po, d'ailleurs elle passe souvent par Sciences Po, comme toute l'histoire contemporaine, et puis d'une histoire qui vogue entre Sciences Po, la sociologie, l'anthropologie. Moi je suis frappée, je viens de relire hier encore un jeune auteur qui parle du mouvement social, du mouvement syndical, mais finalement qui ne regarde pratiquement plus une archive syndicale. C'est-à-dire qu'on discourt sur le sens, sur le vocabulaire, sur on n'a plus d'histoire sociale que j'appellerais de classe, mais on n'a plus d'histoire de classe, ce qui était autrefois le cas dans un certain nombre de travaux relatifs à l'histoire des partis ouvriers ou à l'histoire du syndicalisme. Quelqu'un comme Jean-Charles, dont la région d'origine était le nord-est Jura, il faisait des histoires du syndicalisme qui étaient des histoires très claires, parce que dès qu'on fait de l'histoire chronologique et qu'on manie les archives du syndicalisme, on est au cœur des conflits de classe, on est au cœur des conflits politiques, on est au cœur des conflits sociaux, parce qu'il faut n'avoir lu qu'un compte-rendu de congrès de la CGT, d'une fédération, de la confédération, pour se rendre compte qu'un congrès syndical, c'est aussi un congrès très clair sur ce que c'est que la lutte des classes dans un pays donné. Dans la période dont je parle, tout le monde raconte sur le plan local, sur le plan régional, départemental, ce qui s'est passé, quel conflit il y a eu, avec quel patron on se bat, etc. Et ça, c'est quelque chose qui n'est plus possible. Ne parlons même pas, c'est le sens d'ailleurs de mon ouvrage sur les scissions syndicales, de l'étude qui devient déterminante au XXe siècle de ces influences étrangères sur le syndicalisme. Ça, c'est quelque chose, on l'a dit, qui est entièrement tabou. Je comprends très bien que sur ces questions, ce qui nous fait la propagande historique tous les jours, ce qui nous mouline ce que nous devons penser, et notamment les grands moyens d'information par essence non scientifique, hein, la télé, enfin l'audiovisuel, là, je dis par essence, par structure, par propriété de capital, etc. Je ne fais pas seulement allusion aux personnes qui s'en occupent, parce qu'il n'y a pas de raison qu'un journaliste n'ait pas eu une solide formation historique, n'ait pas fait lui-même d'ailleurs des études historiques et soit capable de comprendre les choses. Mais c'est pas ce qu'on lui demande. Sur ces questions, je pense à la mésaventure d'une chercheuse qui a fait un travail sur force ouvrière et son orientation extérieure et ses liens extérieurs. Elle a fait une thèse et maintenant elle s'occupe de théâtre. La carrière n'est pas possible. Or, quand on parle de syndicalisme, on ne parle pas seulement projet de société, utopie, pas utopie, etc. Qu'est-ce qu'on analyse ? On analyse les conflits sociaux dans les entreprises, on analyse les rapports entre le patronat et la police, toutes ces choses d'une extrême vulgarité que j'ai exploitées pour les années 30 et les années 40, pendant la guerre et après la Deuxième Guerre mondiale. Par exemple, je travaille sur Renault, et qu'est-ce que je trouve dans les archives de police que tant de mes collègues ont déprécié alors qu'elles comptent parmi nos archives les plus précieuses. Personne ne peut faire une histoire intérieure d'un pays sans recours massif aux archives policières. Comme je le dis souvent, je suis désolé de sembler répéter les choses et de passer pour gâteuse, mais personne ne pourrait songer à faire une histoire des relations internationales sans regarder les rapports diplomatiques, ou personne ne traite des questions militaires sans regarder la guerre. Enfin bon, je ne vais pas aller à l'infini. Il est clair que nous avons besoin de ces archives. Il n'y a pas d'archives plus intelligent, plus aigu, parce que c'est la fonction de la police, que l'archive policière, elle est très supérieure aux archives syndicales à beaucoup d'égards. C'est une donnée importante, par exemple, pour l'histoire de la CGT aux époques de répression. Pas seulement parce que les archives syndicales disparaissent, c'est le cas de la CGT, c'est le cas de la CGTU. Il faut savoir, par exemple, ce qu'a représenté en 1939 avec l'interdiction du Parti communiste et toutes ses associations amies, y compris bien sûr les militants de l'ancienne CGTU, ceux qui ne voulaient pas se caractériser par la condamnation sonore du pacte germano-soviétique et qui ne voulaient pas discuter avec les patrons de la manière d'extraire le maximum de plus-value, parce que c'est comme ça que les choses se sont présentées, eh bien, il n'y a plus d'archives. Il y a peut-être quelqu'un qui en a trouvé, mais où, dans quoi ? Dans les archives policières, locales, départementales, nationales, pas ailleurs. Or, qu'est-ce que donnent les archives policières ? Qu'est-ce qu'elles montrent ? Elles montrent des rapports de force entre les patrons, les ouvriers, elles analysent les grèves, elles font quelque chose qui donne une bien meilleure acuité à l'analyse que ce que peut savoir, en règle générale, un militant ou un responsable syndical. Ces archives, elles sont le reflet du rapport quotidien entre, d'une part, le patronat et, d'autre part, la police, locale ou nationale. Je l'ai montré dans le cas de Renault, puisque j'ai montré comment chez Renault, non seulement ça nous donne des informations d'ailleurs sur les luttes sociales à l'intérieur de la société anonyme des usines Renault de Louis Renault, comment ça nous donne même des idées de l'effectif des usines, puisque c'est tenu à jour, qu'on sait combien le patron vire d'employés, d'ouvriers, on a tout dans ce type de dossier. Et qui s'en occupe aujourd'hui ? Qui pourrait faire une carrière aujourd'hui ? Personne. Moi j'ai fait une carrière, je dirais, presque miraculeuse, enfin qui a été pourrie à beaucoup d'égards, puisque mon milieu m'a traité en paria au-delà de ce qui est, je dirais, envisageable. Sans le détail, personne ne peut imaginer ce que c'est que la mise à l'écart ou l'ostracisation. C'est-à-dire, vous n'êtes plus, hein, vous êtes professeur d'université, mais en fait, vous n'êtes pas professeur d'université, c'est en fait exactement comme si vous étiez mort. Ça montre, puisque ça ne me visait pas en tant que tel, hein, ça montre ce qui, aujourd'hui, est un obstacle à la connaissance du syndicalisme dans les années 20, dans les années 30, dans les années 40, et je dirais jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Et c'est une fois de plus une ode à ces archives qui nous apportent tant.
Car comme Annie Lacroix-Riss nous l'a déjà expliqué dans cette émission, l'histoire, ça ne se fait pas avec des opinions, mais avec des sources. Et pour l'histoire contemporaine, les sources sont innombrables. On les trouve dans les archives, et comme le dit parfois l'historienne, qu'elle soit policière, diplomatique, militaire ou patronale, les archives sont impitoyables, car elles n'ont pas d'obligation de politesse vis-à-vis des puissants. Les archives permettent juste d'établir des faits. Revenons-en aux conséquences du congrès de Tours de 1920, qui marque la scission de la SFIO et annonce aussi la scission de la CGT de 1921.
Si au congrès de Tours, en apparence, le syndicalisme est absent, il est au cœur du congrès de Tours. Parce que le fer de lance de la majorité, il est double. Il est chez les délégués des fédérations paysannes, de ces fédérations paysannes dont les militants rejettent ce qu'ils appellent ce socialisme aux mains rouges et qu'ils considèrent comme responsable de la fournaise dans laquelle ils ont vécu, et dont a été porteur d'une manière extraordinaire le seul véritable ouvrage qui est à l'origine compté sur la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire le livre d'Henri Barbusse, qui allait en 1923 adhérer au Parti communiste, mais qui l'avait accompagné, je dirais, dès son début. C'est-à-dire qu'Henri Barbusse, qui a vécu dans la fournaise, dans l'enfer de la guerre, avec le feu, paru en feuilleton en 1916, qui a eu un succès mais inouï, il a exprimé la rage, le ras-le-bol, la haine de ce socialisme aux mains rouges qui triomphe dans la majorité écrasante du congrès de Tours. C'est une donnée. Mais l'autre donnée de la majorité du congrès de Tours, c'est évidemment la classe ouvrière. Et une classe ouvrière qui était organisée sur le plan syndical. Mais j'ai dit tout à l'heure à quel point Jouhaud et les siens avaient réussi à se débarrasser d'un brûlot dans des conditions meilleures que ses camarades socialistes, que ses camarades de la SFIO. Car je le rappelle, Jouhaud a été SFIO, il avait sa carte SFIO dans l'entre-deux-guerres, il n'y a aucun doute là-dessus. Bon. Et donc, Jouhaud a joué un rôle essentiel autant que l'officiel socialisme aux mains rouges, puisque on l'a mobilisé à tous égards. Il faut se rappeler ce que c'est que l'importance du syndicalisme dans l'histoire de la Première Guerre mondiale et dans ses lendemains. C'est-à-dire que qui est-ce qui est l'auxiliaire le plus efficace dans l'alliance entre les social-démocrates à la Léon Blum et Marcel Samba et Renaudel, ce qu'on appelle d'abord le centre, qui est la droite, et l'extrême droite de la SFIO, qui ont couvert la Première Guerre mondiale et qui ont assumé le service après-vente. Parce que Marcel Samba, il est depuis les débuts de la guerre dans un poste d'organisation ministérielle, que Léon Blum est son auxiliaire, que Léon Blum et Marcel Samba sont tous les jours en contact avec le grand patronat, ce grand patronat que l'État a gavé pendant la Première Guerre mondiale, d'une manière littéralement ahurissante, en faisant financer par le contribuable l'extension des installations, en étant bien entendu l'exclusif acheteur de ce qui était produit. Et qu'est-ce qu'a fait le syndicalisme? Il a organisé la discipline dans les usines. C'est ça qu'ont fait Jouhaud et les siens. Faire barrage aux grèves, systématiquement. Or, les grèves, elles commencent à se réveiller à partir de 1916 et elles sont nettement plus animées à partir de 1917. Et il a joué un rôle directement politique. C'est déjà un rôle, évidemment, majeur. C'est un rôle socio-économique décisif. C'est un rôle dans l'organisation de l'exploitation du travail, là encore, décisif. Mais c'est aussi un rôle politique, puisque c'est Jouhaud, comme l'ont montré ces historiens, Bernard Georges et Denis Stinton, Anne-Marie Renaud, ils sont très honnêtes. C'est-à-dire qu'ils ont montré comment le gouvernement français a utilisé Jouhaud, par exemple, de manière décisive pour aller convaincre les Italiens qui avaient envie d'aller à la boucherie comme la bête a envie d'aller à l'abattoir, et encore moins parce que la bête, elle ne sait pas exactement ce qui va lui arriver, mais au printemps de 1915, on avait quand même une idée de ce qui se passait dans les tranchées. Donc Jouhaud, il faut bien voir qu'à partir de 1917-18, il est confronté à une situation quasi impossible. On a peine à imaginer aujourd'hui ce que c'est que l'agitation de la classe ouvrière, non seulement vers la fin de la guerre, mais à partir de la fin de la guerre. La grande bourgeoisie, elle doit à Jouhaud, elle a une dette éternelle à l'égard de Jouhaud. Il casse les grèves, lui et les siens. Casse les grèves dans la concertation permanente avec l'État tout ce que j'ai étudié, moi, pour le coup, de manière précise, dans les années 30. Mais on retrouve dans les années 30 les mêmes pratiques que dans les années 1920, c'est-à-dire négociation avec les patrons et casse de toutes les grèves. Exactement, d'ailleurs, c'est intéressant. C'est vrai des hommes de la SFIO qui refusent tout, comme des syndicalistes, avec une habileté, il faut reconnaître à Jouot une habileté, je ne sais pas si elle n'est pas supérieure à celle de Blum, et c'est lui faire grand compliment, une intelligence de la situation extraordinaire. Il fait comme les sociaux-démocrates allemands, eux aussi remarquablement intelligents. Il est capable, dans une période de radicalisation, de recourir à ce discours radical, hein, de même que les social-démocrates allemands étaient en train de préparer avec la quintessence de la réaction prussienne, c'est-à-dire l'armée, la Reichswehr, la liquidation du mouvement révolutionnaire à partir de l'automne 1918, comme l'ont remarquablement montré les archives présentées et expliqué par Gilbert Badia dans le petit ouvrage réédité récemment qui s'appelle Les Spartakistes, eh bien, Jouot, en 1919, fait mine d'animer d'abord, au printemps de 1919, ce qu'il appelle admirablement, c'est tellement joli, une grève par paliers. Ça consiste à tous les lancer de manière successive, de telle sorte que le premier vaincu obère évidemment le mouvement suivant. Et alors ça prend en 1920, c'est-à-dire avant le congrès de Tours, un tour décisif dans une conjoncture syndicale qui est déjà extrêmement délicate pour lui. Parce que ce qui arrive aux ex-majoritaires de la SFIO, c'est ce qui arrive aux syndicalistes, c'est-à-dire à Jouot. Et il casse les grèves toute l'année 1919, année où son rôle est d'autant plus important que le gouvernement se trouve confronté à une situation terrible. C'est pour ça d'ailleurs qu'en avril 1919, Clémenceau, qui est à l'époque aux affaires, le premier flic de France de 1909, n'a jamais renoncé à ses fonctions de premier flic de France. Et là, comme président du Conseil, il a été à nouveau premier flic de France. Et qu'est-ce qu'il fait en avril 1919, à la veille du 1er mai 1919, qui doit être un 1er mai monstrueux par son ampleur? Il accorde la fameuse loi des 8 heures, qui naturellement va durer le nombre de mois nécessaires et est définitivement portée à la poubelle à partir de l'échec de la grève des cheminots de mai 1920. Qu'on me comprenne bien, la loi des 8 heures dont on nous rebat les oreilles éventuellement quand on ne fait pas d'histoire, hein, et qu'on s'imagine qu'une loi s'est toujours appliquée, on n'en parlera plus, en fait, jusque aux accords Matignon.
Les accords de Matignon, hein, c'est donc en juin 36 quand Blum fait l'intermédiaire entre les patrons et les grévistes.
La chose va durer, comme je l'ai montré, des accords Matignon jusqu'au bon radical Daladier, hein, et notamment à l'échec des grèves de novembre 1938. Et donc, il a déjà cassé les grèves de 19 en liaison avec ses amis. Il casse les grèves, il faut voir dans quelle situation syndicale on est à la veille du congrès de Tours. Il casse les grèves de 1920 et là, c'est terrible parce qu'il y a déjà eu une grève en mars, très importante, chez les cheminots. Les cheminots à qui le coup porté est tellement terrible qu'il n'y a pas de grève des cheminots en 36, comme il n'y a pas de grève dans les mines. Il faut mesurer ça. Hein. Ce sont des fédérations dans lesquelles la tendance Jouot s'est incrustée de manière d'ailleurs parfaitement antidémocratique. Tiens, je cite un exemple qui était volontiers reconnu au 21e congrès confédéral de la CGT en 1900, septembre 1931, par Dumoulin, qui était droitier depuis la Première Guerre mondiale, parce que son gauchisme s'est vite dissous dans la Première Guerre mondiale et qu'il est passé de l'autre côté jusqu'à ce qu'il allait le conduire à la pure et simple collaboration et à la collaboration de taille sous l'occupation, Georges Dumoulin. Hein. Bon, et ben Dumoulin, il dit au chef de la fédération, au chef particulièrement illégitime, avec le rapport de force de 1920, parce que à partir du printemps 1920, les unitaires conquièrent les cheminots à la faveur du premier mouvement de février-mars qui a débouché sur un compromis et par conséquent qui a porté en avant les unitaires de la Fédération des cheminots. C'est là que se forment les Midol, les Sémar, le futur chef du Parti communiste et le militant du Parti communiste qui fait partie des morts délivrés aux Allemands par Pucheux et les siens en 1941. Bidgaray obtient l'aide de l'appareil d'État, de Jouot, de tout le monde pour casser la grève. Et Dumoulin lui dit en septembre 1931, parce qu'il a fait un coup de force, un vrai coup de force, il a perdu la majorité en avril 1920. Ça mettait théoriquement les militants dans de très bonnes conditions pour lancer la grève de mai 1920. Hein, la revoyure, puisque finalement le mouvement de la fin d'hiver n'avait pas abouti de manière satisfaisante. Et il lui dit, tu as tout de même voulu rester à ta place. Tu nous as demandé de t'aider à y rester. C'est intéressant, c'est 31, c'est pas 35, c'est pas 36. Cela nous a créé des difficultés que nous n'aurions pas à craindre aujourd'hui dans nos débats parfois impressionnants. Alors les débats parfois impressionnants, c'était les hurlements des confédérés de Jouot contre les militants unitaires qui se battaient, qui étaient officiellement dans le cadre d'un nouveau syndicat à partir de la CGTU de 1923. On est en 31, c'est-à-dire qu'on est au début de la crise, dans des conditions terribles, parce qu'au contraire de ce qu'a raconté Alfred Sauvy, qui est, je le rappelle, et je l'ai montré et démontré dans Le choix de la défaite, le grand recruteur de la synarchie dans la haute administration française, mais qui est passé dans les années 1970 pour une espèce d'expert parfaitement objectif des conditions économiques et sociales de l'entre-deux-guerres. Sauvy nous explique dans son histoire économique de la France de l'entre-deux-guerres que finalement la France n'a pas été tellement frappée d'emblée par la crise des années 30. Hein, bah, elle a été tellement peu frappée qu'on est déjà avant la moitié de l'année 1931 avec 15% de baisse nominale dans la catégorie, je dirais, la plus combative et d'ailleurs la plus unitaire, la plus CGTU. Là, les confédérés sont très faibles et resteront encore plus faibles, évidemment, quand la Fédération des métaux se développera considérablement en 1936-37. On se trouve donc avec moins 15% de salaire dans une fédération combative. Eh bien, en fait, Bidgaray, il a été significatif avec l'appui de Jouot, avec l'appui de l'État, avec l'appui des patrons des réseaux, hein, de ce qui allait former en 1937 la fausse nationalisation de la Société nationale des chemins de fer. Il a représenté une espèce de symbole dans la tactique Jouot qui a littéralement soustrait aux travailleurs combatifs le droit de combattre, pour parler clair, entre 1920 et 1934-36. La deuxième grande réussite de Jouot, c'est de casser toutes les grèves de 1920. Et c'est le chant du cygne, c'est fini. Hein. Après l'échec des cheminots en mai 1920, il se passe quand même peu de choses. Il se passe des choses, bien sûr. Mais il se passe peu de choses en termes vastes, généraux, dans le mouvement ouvrier français, c'est-à-dire que la classe ouvrière, elle subit une défaite terrible. il faut profiter du pré-confinement ou du confinement. Il faut lire. En ce moment, il faut lire. Il ne faut pas regarder la télé, des séries et jouer à je ne sais quel jeu, hein, et être collé sur son téléphone toute la journée. Il faut profiter de cette période terrible qui exaspère beaucoup de gens, quelquefois d'ailleurs qui les rend imperméables même à la situation sanitaire, parce qu'elle n'est pas si commode que ça. Il faut profiter de cette situation pour s'informer sur des choses qu'on ne connaît pas du tout. Parce qu'il faut bien avoir en tête, finalement, l'idée qu'on va avoir du congrès de Tours et de ses lendemains, c'est que ce mouvement communiste qui finalement s'est simplement aligné sur ces dictateurs putschistes soviétiques, ils l'ont remporté à Tours, et puis après ils ont pourri le mouvement, ou de toute façon ils ont été momentanément vaincus parce que tout le monde s'est aperçu que finalement il aurait mieux valu suivre cet excellent Blum qui avait contribué à organiser le travail industriel de 1914 à 1917, en tout cas officiellement, qui avait avec la bourgeoisie des liens qui ne se sont jamais démentis. D'ailleurs, il appartenait lui-même à la bourgeoisie. Il fait partie des personnages qui sont considérés par la grande bourgeoisie comme clés, c'est-à-dire de ces personnages qu'on transforme en légendes vivantes de la bonté, de la liberté. Je pense au documentaire effarant. J'en profite d'ailleurs pour dire, il y a peut-être des auditeurs qui l'ont vu, moi je ne l'ai pas vu, mais un ami vient de m'informer, qui connaît très bien le dossier Mitterrand, vient de m'informer d'un documentaire sur Mitterrand. Il a subi un calvaire.
Alors comme ça, Mitterrand n'était donc pas ce grand homme de gauche qui, au début de son septennat, n'a pas du tout trahi ses promesses, n'a pas lancé la France dans le néolibéralisme. Et surtout, Mitterrand n'a jamais été décoré par le maréchal Pétain pendant l'occupation, hein, puisque c'était un grand homme de gauche.
Non, mais non. Le documentaire comptait sans rire qu'il avait fait ça pour couvrir mieux encore sa remarquable résistance.
On va encore vous redemander que la France présente des excuses pour ce qui s'est passé à Vichy.
Ils attendront longtemps, ils n'en auront pas. La France n'a pas d'excuses à donner, ni la République. À aucun moment je ne l'accepterai. Je considère que c'est une demande excessive de gens qui ne sentent pas profondément ce que c'est que d'être français, l'honneur d'être français et l'honneur de l'histoire de France.
Alors, puisqu'on est en train de digresser sur les légendes frauduleuses qu'on nous tartine au sujet de collaborateurs de l'oligarchie comme Mitterrand ou Blum, il y a un truc qui m'a toujours étonné au sujet de ce dernier. Dès son élection en 1936 à la tête d'un front populaire qu'il s'empressera de trahir, Blum est alors désigné par la droite comme le vilain juif de l'anti-France qui conduit le pays à sa perte, une chanson qu'on va entendre pendant toute l'occup. Mais même avant ça, plutôt Hitler que Blum peut-on lire dans la presse de l'époque. Or, j'ai toujours trouvé étonnant que les nazis aient épargné Léon Blum. Blum sera interné et correctement traité pas très loin du camp de concentration de Buchenwald, mais pas dans le camp. Il reviendra d'Allemagne bien vivant et comme un grand homme de gauche, il finira sa carrière en continuant à collaborer dans les milieux de la haute banque qu'il a servi pendant toute sa vie, en continuant donc à servir ce noyau dur du capitalisme français qu'on a appelé la synarchie, et auquel Annie Lacroix-Risse a consacré quelques ouvrages dont on a déjà parlé dans de précédentes émissions. Alors, comment expliquer la clémence des nazis à l'égard de Léon Blum ?
Göring avait une remarquable expression là-dessus qui disait « Est juif qui je décide qui est juif ?» Et les juifs d'honneur, c'est quelque chose qui a existé, y compris dans l'Allemagne nazie. Moi, je l'ai montré dans « Le choix de la défaite » et d'autres ouvrages parce que j'étais amené à expliquer, d'abord, dans « Le choix de la défaite », il fallait bien que je montre quelle était la politique extérieure de la France et j'étais contrainte par les sources et même d'ailleurs par d'autres travaux. Je pense en particulier au très remarquable travail non traduit d'une historienne américaine qui s'appelle Nicole Jordan, sur la politique extérieure de Blum en Europe centrale au début du Front populaire, moi, ce que je constatais, c'est évidemment, d'une part, une parfaite continuité de cette politique, malgré tout le laïus sur l'aide clandestine à l'Espagne. Et évidemment, comme je travaillais sur les archives françaises, les archives allemandes et les autres, les archives américaines en particulier, extrêmement explicites sur les fonctions de Blum, moi, je rencontrais un Blum complètement différent, c'est-à-dire un Blum qui était tellement apprécié par les Allemands que... Il n'y a pas un texte, en tout cas dans les archives publiées allemandes, dans lequel il soit même fait allusion à sa judéité. Comme j'ai étudié le phénomène des juifs d'honneur et des déportations d'honneur, en particulier dans l'ouvrage sur les élites, ça m'a amené à expliquer ce que c'est qu'une déportation d'honneur, et il faut dire à quel point le documentaire dont j'ai parlé tout à l'heure, qui était en extase parce qu'il paraît que c'était Blum qui avait offert les semaines de congés payés et libéré la classe ouvrière en 1936, il était expliqué, comme il est souvent expliqué, qu'il a été déporté en camp de concentration. Non, il n'a pas été déporté en camp de concentration. Il a été interné, ce qui est très désagréable, bien entendu, personne ne va le nier, mais il a été interné d'abord en France, et puis transféré dans un de ces établissements d'honneur près de Buchenwald, mais pas à Buchenwald, et traité correctement dans les conditions d'internement, hein, qu'on me comprenne bien. Mais ça a été aussi un moyen de préserver le statu quo d'après-guerre, ce que je montre dans mes ouvrages. Juif ou pas juif, ceux qui avaient favorisé passivement ou activement la venue au pouvoir des putschistes de Pétain, et bien entendu de putschistes dont le véritable tuteur était cette fameuse synarchie qui n'existe pas et son bras armé des ligues fascistes, c'est-à-dire de la cagoule. Moi, j'ai montré, jusqu'à nouvel ordre, je n'ai pas été démenti, hein, sauf sans démonstration par tel ou tel collègue dont naturellement le témoignage est retenu dans ma fiche Wikipédia, vu que dans ma fiche Wikipédia, la seule chose qu'on connaisse sur mes travaux, ce sont les critiques que mes collègues ont apportées à mes travaux. Il paraît que je suis trop sévère sur Reynaud, il paraît que je suis trop sévère sur Blum, que je suis trop sévère sur Daladier, je suis trop sévère sur tout le monde. Ah bon ? Mais moi, ce que j'ai montré, c'est que tous ces gens ont considéré, sur commande, parce que leur maître le considérait, ceux qui leur servaient de bailleurs de fonds, et le Parti Socialiste dépendait aussi des bailleurs de fonds patronaux, comme je l'ai montré. Je dirais que Blum, il est plutôt dans la moyenne, c'est-à-dire qu'il est un de ceux, passivement, qui ont organisé, qui ont laissé faire le passage à la dictature, à la dictature via la défaite. Je rappelle que dans les archives allemandes, Blum est montré juste avant la déclaration de guerre de mauvais gré de la France, le 3 septembre 1939, parce qu'il a quand même fallu la tirer par la manche pour qu'elle se résolue à déclarer la guerre à l'Allemagne, quelques jours avant, Blum va voir Daladier, qui fait semblant d'être ferme, et lui dit « Vous n'allez pas vous exciter sur la Pologne, là, hein ?» Parce que la Pologne, personne ne lui apportera secours. Ses dirigeants sont abominables, leur politique est abominable, mais il n'a jamais été question d'apporter le moindre sou et le moindre soldat en Pologne. Et donc ces gens qui ont été des passifs ou des actifs, Blum passif, encore que pas entièrement passif, hein, parce qu'il a été aux affaires en 1936-1937. Les gens officiellement davantage de la haute société comme Reynaud ou Daladier qui ont été des relais plus actifs que passifs. Tous ces gens ont été en quelque sorte lavés par la guerre officielle que Vichy a menée contre eux. Et on parlait tout à l'heure d'un accroc, d'une part Marx Dormois assassiné dans des conditions épouvantables avec une bombe en juillet 1941, et Mandel, il s'agissait de deux ministres de l'Intérieur qui, aussi anticommunistes qu'ils fussent, aussi passifs qu'ils eussent été longtemps, ont été à un moment actifs, impuissants, mais ont voulu être actifs contre le complot contre la République. C'est-à-dire, l'un qui en 1937, Marx Dormois, s'en va tenter de faire une enquête sur la cagoule, après la tentative de putsch de la mi-septembre 1937, puis l'autre, c'est-à-dire Mandel, qui, dans la période 39-40, va s'occuper de la cagoule, et en particulier est allé piquer les archives de la cagoule. Donc Mandel sera exécuté, ce qui est quand même rare, je dirais, pour des gouvernants, et Marx Dormois sera exécuté. Mais personne ne peut dire, évidemment, que Blum ait été une victime au même titre que ceux qui, à Buchenwald, dans le camp de concentration. Buchenwald était un camp où on a retrouvé beaucoup des communistes qui n'avaient pas été purement et simplement exécutés. Blum n'est absolument pas comparable à ces résistants.
Détail stupéfiant attestant que Léon Blum n'était pas maltraité. En 1943, il obtient même des nazis la permission de se marier à Buchenwald. Après les moutons noirs du réformisme, revenons-en à nos moutons noirs du syndicalisme, lui aussi en partie corrompu. Revenons-en en l'occurrence à Léon Jouot, qui fut à la CGT ce que Blum fut au socialisme, un collaborateur du patronat, fort bien célébré et rémunéré par ce dernier.
Puisqu'on a évoqué le rôle, les services rendus par Jouot, il faut exposer à quel point Jouot, à partir de la Première Guerre mondiale, est un homme honoré. C'est-à-dire que est fondé le Bureau international du travail, qui est animé d'ailleurs par Albert Thomas, c'est-à-dire par un représentant de l'extrême droite de la SFIO, qui a toujours négocié avec les patrons et qui a eu un rôle qu'on peut classer comme Renaudel, à l'extrême droite de la SFIO, c'est-à-dire qui est un compagnon habituel des milieux dirigeants, qui n'en a pas de contact avec les milieux prolétariens. Et quand le BIT est constitué, Jouot se voit offrir un poste de représentant à Genève des salariés français. Il faut le dire parce que ça a été un élément essentiel pour un Jouot qui aime le pouvoir, qui aime les honneurs. C'est une clé de Jouot. Jouot, par exemple, à la différence de Belin, n'est pas nazi. Jouot est quelqu'un qui est dans l'âme un social-démocrate qui aime mieux les patrons que les prolos combatifs. Voilà. Bon. Jouot obtient en 1920-1921 une aide décisive de la Fédération syndicale d'Amsterdam, qui s'est d'ailleurs tenue quoi toute la guerre, parce qu'elle n'avait rien à dire, réanimée, si je puis dire, à la fin de la guerre, parce que c'était un élément essentiel contre l'insertion des fédérations syndicales nationales dans la Troisième Internationale, parce que c'est la question posée par la Troisième Internationale, qui est l'adhésion des syndicats. Hein ? Parmi les 21 conditions de l'adhésion, et évidemment l'absence de la CGT, de la discussion du Congrès et du Congrès de Tours faisait particulièrement désordre, puisque il y a, dans les 21 conditions spécifiques d'adhésion à l'international, il y a deux conditions qui sont relatives au syndicalisme. Deux conditions, la 9 et la 10. Hein, chaque parti désirant appartenir à l'international communiste doit déployer systématiquement et fermement une activité communiste dans les syndicats, dans les conseils ouvriers, dans les conseils de fabrique, dans les coopératives et autres organisations de masse. À l'intérieur de ces organisations, il est nécessaire de créer des noyaux communistes qui, par une activité incessante et tenace, doivent gagner ces groupements à la cause communiste. Ces noyaux ont le devoir, dans leur activité quotidienne, de démasquer la trahison des social-patriotes et les hésitations des centristes. Hein, parce que là, on combat évidemment, il y a trois tendances. Hein. La tendance centriste va au congrès de Tours se rallier à la tendance droitière, mais là, on est encore au moment où s'élaborent les conditions d'admission, c'est-à-dire au deuxième congrès de l'international. Et la dixième, chaque parti appartenant à l'international communiste a le devoir de mener une lutte opiniâtre contre l'international des fédérations syndicales jaunes d'Amsterdam. et il y en a encore un petit paquet, par tous les moyens, voilà, il doit soutenir l'Union naissante internationale des syndicats rouges qui s'est réunie à l'Internationale communiste, laquelle d'ailleurs sera la centrale de référence de la Confédération générale du travail constituée à partir de 1923. Et alors, il en est des conditions syndicales comme du reste qui ne sont éclairées que par les conditions historiques de ce congrès de Tours qu'on présente en quelque sorte comme le symbole du putsch communiste, d'un putsch communiste assez curieux, puisqu'il a eu les trois quarts des mandats. Hein. 3208 mandats pour la majorité, 1022 mandats pour Longuet, le roi en a 44, Pressman en a 60, et il y a 397 abstentions. C'est une donnée extrêmement importante, précisément parce que l'histoire concrète a montré à quel point la déshérence du syndicalisme a aggravé la situation dans laquelle s'est trouvé le peuple français dans la guerre. Non seulement, évidemment, ont été envoyés à la boucherie essentiellement des paysans, mais comment est-ce que les ouvriers ont été surexploités, et ils l'ont été, la chute du pouvoir d'achat est vertigineuse pendant la guerre. Comment est-ce que les ouvriers ont été surexploités pendant la Première Guerre mondiale? Parce que Jouot et les siens ont organisé la discipline ouvrière. C'est ça la réalité. À la lecture de ce que je viens de dire, des conditions ne fait 10, on doit se dire quand même les noyaux communistes. Mais il faut rappeler quelque chose qui est décisif dans l'histoire du syndicalisme. Dans tout le mouvement social-démocrate mondial, contentons-nous de l'Europe, puisque c'est là qu'il s'est déployé avant la Première Guerre mondiale, il y a association organique entre le syndicat et le parti. Le cas français est un cas pas ordinaire. Le cas italien est un cas pas ordinaire, parce que ce sont deux pays où le radicalisme, qui mènera d'ailleurs à l'existence de deux partis communistes forts, où le radicalisme ouvrier conduit à mettre en cause cette association. Je le rappelle, on ne le dira non plus jamais assez. Le fameux congrès d'Amiens, avec ce qu'on appelle la charte d'Amiens, est une escroquerie, parce que la question est une question qui s'explique par la force du guédisme.
Jules Guesde était à la fin du 19e siècle et début 20e un militant socialiste qui se définissait comme collectiviste, internationaliste et révolutionnaire. Très rouge et marxiste, Guesde sera l'un des leaders du Parti ouvrier. En 1914, il adhère pourtant à l'Union sacrée et sera ministre de 1914 à 1916, arguant en gros que la guerre est l'occasion de porter la révolution ou un truc comme ça.
Le guédisme, il veut la même chose que les autres. Mais comme il est à cette époque marxiste et comme il le reste, disons, officiellement jusqu'à quelques années avant la guerre de 14, puisque ça ne sera pas le cas en 1914 officiellement, Guesde acceptant un petit strapontin, mais c'est clair, il s'agit d'empêcher les guédistes de faire ce qui règne en Europe, c'est-à-dire d'établir la liaison organique entre le parti et le syndicat. C'est pourquoi je dis que lire les 21 conditions, c'est aujourd'hui, compte tenu de la propagande à laquelle nous sommes soumis, c'est à peu près aussi impossible que de travailler sérieusement sur l'histoire de l'Union soviétique. On lit les 21 conditions, on se dit « Oh, mon Dieu, mais quelle dictature affreuse !» C'est le grand thème d'ailleurs de Blum au congrès de Tours. C'est le 27 décembre, sa grande scène du 2. « Mais oui, nous aussi on veut la révolution, mais on ne veut pas cette militarisation du mouvement, on ne veut pas cette dictature. » Voilà, et alors vous avez aujourd'hui la bouche en cœur, toute historiographie dominante qui nous dit que, et je ne parle même pas des politiques, qui nous disent que finalement le voilà, le grand homme, il avait tout dit en décembre 1920 et tout s'est réalisé comme il l'a dit. Bon, c'est ce que j'appelle d'ailleurs de la prévision autoréalisatrice, parce qu'évidemment, à force de faire subir à la malheureuse jeune Russie soviétique les malheurs dont elle a été accablée dès le début de 1918, évidemment, on contribuait sensiblement, je dirais, à la militarisation et au caractère autoritaire de ces pratiques. Mais il faut bien avoir en tête que les noyaux communistes dans le syndicat, c'est la réplique à ce qui se passait. Cette scission de 1921, qui n'est pas une scission, qui est une mise à la porte des militants qui, à la faveur des luttes de 1919-1921, sont en train de devenir majoritaires. Ils sont majoritaires quand ils sont mis à la porte en 1921 par jour. Seulement, ils sont majoritaires de peu, et surtout, c'est extrêmement intéressant, parce que ça se reproduit en 1936. Comme les gens qui n'organisent pas les luttes sont des tacticiens, je dirais, particulièrement compétents, j'allais dire, ils n'ont quasiment que ça à faire. Ils ont, en 1921, entièrement verrouillé le syndicat. C'est-à-dire qu'on peut avoir la majorité qu'on veut à l'intérieur du syndicat, de toute façon, il n'y aura pas de reflet à la direction. C'est exactement ce qui se produit au congrès de réunification de Toulouse au printemps de 1936. Les tenants de Jouot renouvellent exactement ce qu'ils ont fait au congrès confédéral de 1921, le blocage, verrouillage, très honnêtement expliqué, précisé par Georges et Tintin dans leur ouvrage sur Jouot, puisqu'ils montrent bien que les mesures prises entre CCN et Congrès, elles sont telles que, de toute façon, il peut arriver ce qu'on veut aux unitaires, c'est-à-dire depuis 1920-1921 au comité d'unification de la CGT, parce qu'ils travaillent à l'intérieur du syndicat, les unitaires, ceux qui sont la majorité au congrès de Tours, qui sont la majorité du mouvement ouvrier. Parce que devient le Parti communiste? Il devient un parti dont la substance est en partie paysanne. Il faut quand même avoir en tête que la première fédération de 1915 qui se dresse contre le socialisme aux mains rouges et la participation à la boucherie, vous m'entendez bien, en 1915, c'est la fédération de la Haute-Vienne, c'est-à-dire une fédération d'un département agricole et qui sera, je le rappelle, un fer de lance de la résistance active. C'est la grande vertu de l'histoire, c'est de montrer quel est le cheminement entre le vieux et le présent. Donc il y a cette dimension, bien sûr, qui va donner pendant longtemps au Parti communiste une forte assise dans certains départements ruraux, agricoles. Très forte assise. C'est l'assise de Tours. Mais ce Parti communiste, il a une autre assise, qui est cette assise prolétarienne. Tous les communistes prolétaires, toute cette jeune génération d'ailleurs qui se dessine à Tours, dans les préparatifs de Tours, dans la discussion sur les 21 conditions, c'est tous les grands dirigeants communistes de l'entre-deux-guerres, et même de la guerre et d'au-delà de la guerre. C'est Thorez, ils sont là tous.
C'est ici que se termine ce nouvel entretien avec Annie Lacroix-Risse, qu'on remercie, autour de cette histoire compliquée des conséquences du congrès de Tours de 1920. Histoire terrible et stupéfiante, tant elle ne colle pas à ce qu'on nous raconte d'habitude, et que tu peux réécouter sur notre site polemix-et-la-voix-off.com. Avant qu'on ne retrouve notre vilaine historienne rouge pétroleuse au prochain épisode de cette saga, ce sera sur cette même antenne, à la même heure. Ce n'est qu'un combat. Continuons le début. Salut.
Radio G. 101.5 FM. Le Labo des Savoirs. L'émission qui explore tous les champs de la science et invite les chercheurs au microscope, c'est tous les samedis à 13h sur Radio G 101.5 FM. Chroniques, reportages, interviews, expériences radiophoniques. Et retrouvez toutes les émissions en podcast sur le site internet labodessavoirs.fr.
Activez vos synapses, poussez la porte du Labo des Savoirs et entrez dans un monde de science et d'expérience. C'est le Labo des Savoirs.